grand-mère s'appelait Olga Ivanovna Frolovna, qui est devenue Makeyeva, puisqu'elle a épousé mon grand-père pendant la guerre civile pour pouvoir embarquer, parce qu'on n'embarquait pas avec un homme sans être marié. Elle était tout à fait insomniaque. Et la journée, il n'était pas question de sortir une cigarette, il n'était pas question de défaire son chignon. Et la nuit, dans sa chambre, à elle, elle défaisait ses grands cheveux et elle devenait un autre personnage, complètement théâtral, avec sa cigarette. Et elle parlait, moitié russe, moitié français. Elle savait très bien que j'étais là, mais elle faisait comme si elle ne m'avait pas vue. Et elle se mettait un peu en scène et ça lui faisait du bien. C'était vraiment une saga. C'était aussi tout un monde ancien qui avait sombré comme ça. C'était comme un naufrage.
Le grand atelier.
Le théâtre est toujours une célébration.
Vincent Josse sur France Inter.
Bienvenue dans le grand atelier. Nous allons passer 2 heures avec. Avec ? Tiens, pour une fois, ce n'est pas moi qui vais présenter l'invité.
Masha Makeyev est une créatrice extraordinaire, une artiste, une rêveuse, une utopiste. Depuis le temps qu'elle travaille, j'ai des souvenirs tout mélangés et très beaux. Des chiens qu'elle faisait avec Deschamps. Mais des spectacles, je me souviens d'un défilé de femmes de ménage, très bien habillées en femmes de ménage. Je me souviens, oh mon Dieu, d'une exposition où tout était désastreux. Le lait était cassé, les objets étaient trouvés aux puces. Et puis, son atelier, plein de bazar qu'elle utilisait d'une façon ou d'une autre. Elle a écrit des pièces de théâtre. Et alors, par exemple, à Marseille, c'est certainement là où il y a les plus beaux programmes du monde. Les programmes de la Criée sont des petits livres épais, pleins d'images, surréalistes, floues, amusantes. C'est-à-dire qu'elle arrive à rendre les choses officielles charmantes, utiles et en même temps spontanées. Moi, j'adore cette femme. Et je regrette qu'elle habite Marseille parce qu'on ne se voit pas beaucoup. Mais je trouve que sa passion pour les Russes maintenant, le spectacle qu'elle a fait. Sa passion, elle est allée là-bas. Elle va, elle cherche tout le temps des idées. Et elle le fait d'une façon tellement vivante, tellement drôle. Je trouve que c'est une femme extraordinaire, tout simplement. Je l'embrasse et je l'aime.
La cinéaste Agnès Varda, Masha Makeyev, bonjour.
Bonjour.
Elle est aux États-Unis. Elle fait une tournée avec son film et le film de JR, Visage Village. Mm-hmm. Et elle avait envie de vous faire un salut.
J'en ai les larmes aux yeux. Vraiment, c'est quelqu'un qui compte tellement dans ma vie, comme artiste, comme femme libre, comme écriture de sa propre vie. Agnès, c'est une personne rare. C'est quelqu'un d'extrêmement puissant et poétique et en même temps qui a un sens de l'humanité. Vous vous sentez exister dès qu'elle vous regarde.
On va évoquer votre spectacle La Fuite, spectacle qui a lieu en ce moment à La Criée, votre théâtre de La Criée à Marseille, Masha Makeyev, et puis qui partira aussi ensuite en tournée. On va aussi rencontrer de jeunes artistes, ils ont autour de la trentaine, j'ai remarqué dans votre liste d'invités, mm-hmm. puisque vous dites qu'il faut regarder les autres, vous-même vous avez été regardé par Antoine Vitesse.
Oui, par exemple.
Grand metteur en scène et théoricien du théâtre.
Magnifique. Voilà, un intellectuel, un artiste, aussi d'une grande générosité. Et un jour où j'allais pas très bien, je me posais vraiment des questions. Je suis d'une génération où c'était pas si simple. Et sur un petit bout de carton, il m'a mis « Ton regard, je le reconnais ». Et j'ai gardé ça vraiment comme un fétiche, parce qu'on se refait pas. Et je sais que ça m'a sauvée.
Il y a une série de raisons qui est le désir de travailler avec ce qui n'est pas du théâtre. C'est le goût de faire une espèce de théâtre, comme disait Hugo, de théâtre en liberté. C'est-à-dire l'idée folle et gaie que l'on a le droit de s'emparer de n'importe quoi, que l'on peut faire théâtre, pas faire du théâtre, mais je dirais faire théâtre de tout.
La grande formule vitésienne,
oui.
Faire théâtre de tout. Comment elle résonne chez Jérôme Deschamps et Masha Makeyev dans les années 70 quand vous créez votre compagnie?
Elle résonne par notre extrême anticonformisme et notre liberté totale. Et Antoine l'a tout de suite ressenti. Il disait qu'on était un peu étrange, un peu à côté. Mais quand on lui a confié Chaillot, il nous a demandé de faire le premier spectacle dans la petite salle à Gémier. Mais on ne se rendait pas compte, c'est quand on est très jeune, on avance et on pense qu'on invente des choses, et puis petit à petit on se rend compte qu'on est dans... On rejoint des grands mouvements, des grandes traditions qui viennent très très loin.
Vous voulez dire qu'on n'invente pas grand-chose ?
On n'invente pas grand-chose, on invente un peu sa vie comme ça, et encore, moi je crois beaucoup au destin.
Ça c'est le grand fatalisme russe.
Oui, 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 absolument. En tout cas, ce qu'on peut inventer, c'est de se mettre dans un état de suspension et de disponibilité à la chose artistique avec la plus grande sincérité. Après, c'est beaucoup de travail.
Ce que vous avez inventé, vous, Macha Makeyev, avec Jérôme Deschamps, c'est quand même une forme particulière de fantaisie sur scène, oui, avec vos comédiens, et notamment progressivement avec les Morel, Saladin et autres Yolande Moreau. Il y avait un rire et un regard sur les déclassés qu'on n'avait pas encore vu.
Qu'est-ce qui nous fait chier à lire, toi ? Qu'est-ce qui nous fait chier à lire tout le temps ?
Je te signale que ton père te parle.
Oui. Hein ? Qui c'est quoi son... Yursonar, Adrien, c'est quoi ça ? C'est quoi ton Adrien ?
C'est un empereur romain.
Yursonar, c'est un empereur romain ?
Mais non, Adrien...
Oui, bon Dieu, hein, ça va, hein ?
T'as qu'à répondre aussi ?
Hein, qui c'est qu'a taillé la haie, là ? Qui c'est qu'a taillé... C'est ton Yursonar qu'a taillé la haie ? Bon, alors...
C'est vrai, on a célébré les déclassés, les cabossés, ceux qui n'avaient très souvent même pas le discours. Donc ils étaient mieux, mais on était aussi... On était à l'école de Jacques Tati. Après, on a vraiment approfondi, mais il y avait aussi les grands prédécesseurs qui étaient les Anglo-Saxons, tous ceux qui étaient dans le cinéma muet, tous ceux qui étaient privés de la parole et qui se rattachaient au fond aux Italiens à qui on avait interdit de parler, à tous les pantomimes de toutes les époques, parce que quelquefois le théâtre était interdit de parole pour certains. Et donc il y a des traditions. Au fond, quand on est frappé de mutisme, le corps, le regard, l'objet, le rapport au monde est autrement lisible et quelquefois encore plus émouvant, plus perceptible, plus fort.
Le regard de Macha Makeyev sur les objets, sur les autres, sur les déclassés, sur les grands auteurs et aussi sur les jeunes artistes. Ce sera ça nos deux heures avec vous aujourd'hui, oui. Macha Makeyev. Il y a un jeune homme là en t-shirt.
Alors c'est Paul Lai, et Paul Lai c'est quelqu'un que j'ai vu grandir, éclore, et il y avait une telle promesse, et il n'y a rien de plus émouvant que de voir un jeune artiste qui, comme une fleur japonaise, s'ouvre comme ça. Et en même temps, les artistes n'ont pas d'âge.
Paul Lai, vous avez pianiste de jazz.
Pianiste de jazz, c'est quelque chose d'inouï parce que on a l'impression qu'il y a la grâce, quoi. C'est quelque chose. Et ça n'a rien à voir avec l'âge, ça a certainement à voir avec le travail, ça a certainement à voir avec l'intuition et l'inspiration. Mais quelque chose se dit là tout de suite, comme s'il y avait une urgence. Et ce que j'aime dans cette musique de jazz, et je ne connais pas très bien, et lui m'a fait entendre des choses, ce sont des artistes de l'urgence. Et il faut le dire là, maintenant, parce que ça a lieu maintenant, là. Et demain ou dans une heure, ça sera complètement différent.
Bonjour Paul Lai.
Bonjour.
Il y a une urgence dans le jazz, peut-être plus que dans la musique classique ?
Plus que la musique classique, je ne sais pas, mais effectivement, le jazz, c'est la musique de la spontanéité, de l'improvisation de chaque seconde. Et c'est vrai que j'adore me jeter à corps perdu à chaque fois dans une nouvelle version d'un morceau que je peux jouer peut-être des dizaines de fois. Mais effectivement, à chaque fois, je rentre sur scène, je vois le piano qui est on transporte pas notre piano avec nous. Donc à chaque fois, c'est un nouveau jouet avec lequel se familiariser. Et la musique que l'on va jouer va être effectivement différente à chaque fois. Et j'essaie vraiment de mettre dans la posture d'un jeune enfant qui découvre un jouet et qui va s'amuser avec et pour en sortir ce qu'il en sort, mais en tout cas rester effectivement le plus disponible et frais dans l'instant.
Paul Lai, on a un beau jouet à vous proposer, il est à quelques mètres de vous dans ce studio 107 de la Maison de la Radio, c'est un Steinway, rien que ça, on serait heureux de vous entendre le jouer.
Très bien, merci.
Paul Lai, premier morceau dans ce grand atelier de Masha Makeyev, et Masha Makeyev qui acquiesce. Vous acquiescez à quoi ?
J'acquiesce à l'énigme. Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on part quand on joue quelque chose comme ça ? Parce que c'est ça qui me fascine aussi, qui m'intéresse. Et où est-ce qu'ils partent, les joueurs ?
Il y a du mystère chez un musicien pour vous ?
Ah oui. Oui, il y a vraiment quelque chose d'étonnant.
Paul Lai, vous nous emmeniez où, là ?
En fait, je ne sais pas moi-même, au départ, en tout cas. Disons que je vais chercher une matière, une structure, un accord qui me vient selon l'instant. Et je travaille avec cette matière. Je sais très bien que je vais à un moment amener le morceau que je souhaitais jouer. Mais ensuite, c'est ça qui est génial avec cette musique, c'est que tous les chemins sont possibles et c'est vraiment du... C'est de la composition en temps réel. Il y a une idée qui vient, on décide de la malaxer, de la développer. Et si je devais le rejouer, ce serait évidemment différent.
Il a un titre, ce morceau, d'ailleurs.
Oui, donc il s'appelle Dolphins. C'est un morceau que j'ai écrit pour ma sœur qui s'appelle Delphine.
Vous enviez quelque chose du musicien de jazz qu'est Paul Lai, Masha Makeyev ?
Ah oui, oui, oui. C'est son extrême concentration en si peu de temps. Vous avez vu ? C'est comme un félin. Il arrive, il se concentre et les choses viennent et il nous oublie. Enfin, il y a quelque chose d'un chemin mystérieux qui est assez fascinant. Nous, au théâtre, on n'est pas dans cette solitude. On travaille toujours, on travaille toujours avec les autres, par les autres, grâce aux autres. Et là, quelquefois, j'en vis cet état absolument solitaire d'un chemin très, très singulier.
Vous dites Tiphaine, parce qu'effectivement, il y a une Tiphaine autour de cette table aujourd'hui, sur France Inter. C'est Tiphaine Raffier, bonjour.
Bonjour.
Je peux dire votre âge ?
Oui, allez-y.
31 ans.
Oui.
Comédienne et metteuse en scène.
Et auteur.
Et auteur. Vous faites tout, quoi ?
Non, je ne sais pas faire la cuisine.
Bonne réponse de Tiphaine Raffier. À 31 ans, Masha Makeyev, vous faisiez quoi, vous ?
Je faisais des spectacles avec Jérôme.
Vous étiez déjà costumière, décoratrice et metteuse en scène.
Oui, je faisais des tas de choses comme ça, des petits expos, et puis des enfants aussi.
Et puis des enfants, vous en avez quatre.
Oui.
Tiphaine Raffier est l'une de vos invitées. Pour quelle raison ?
Parce que j'ai beaucoup d'admiration et que je crois beaucoup au féminisme de l'admiration de celles qui étaient derrière nous, de celles qui viennent devant nous.
Pourquoi parlez-vous de féminisme ?
Parce que je pense qu'il faut que les femmes s'aiment soi-même et s'aiment entre elles. Et
parce qu'elles souffrent de quoi ? Des hommes ?
Non, pas du tout. C'est parce qu'elles souffrent de... Comment dire ? On perd beaucoup de temps à chercher une place et plutôt que de lutter simplement, il faut admirer. Je crois beaucoup à l'admiration comme exercice prophylactique et quotidien. Et donc, il n'y a rien qui m'enchante plus que de voir une ou un jeune artiste... être là, et j'ai lu les textes de Tiphaine Raffier, je l'ai vue à l'œuvre, c'est une femme de plateau, c'est une actrice, et l'idée que le théâtre est toujours extrêmement vivant nous étonne, nous étonnera toujours, c'est aussi une forme de plaisir. Mais je crois qu'on n'a rien à apprendre à un jeune artiste, rien du tout à une jeune artiste, on a simplement à le la regarder, et ça passe par l'admiration.
Tiphaine Raffier, une réaction au propos de Masha Makeyev ?
Oui, c'est vrai que notre rencontre à Avignon, un après-midi, a été assez solaire. Et
c'était quand ?
C'était il y a 2 ans. Elle était venue m'écouter parler de mon prochain spectacle que j'étais en train d'écrire. Et j'ai senti qu'elle m'écoutait. Et qu'elle me regardait, effectivement.
Plus que ça, parce que vous êtes programmée à la Criée
à Marseille.
Elle m'a
bien écoutée, oui.
Ce sera le spectacle qui est à l'affiche en ce moment du Théâtre du Nord à Lille, oui. France Fantôme, qui nous fait partir loin, 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 devant, pas loin derrière, puisque c'est quasiment de la science-fiction. On est au 25e siècle.
Ouais, c'est ça.
La science-fiction au théâtre, j'ai pas tellement l'habitude de voir ça.
Moi non plus. C'est vrai qu'on est en France, mais dans très très longtemps. Bon, toutes les science-fictions ont parlé du contemporain et de l'époque à laquelle les romans étaient écrits. Mais la science-fiction, c'est aussi la possibilité de regarder le présent avec un regard totalement anthropologique, c'est-à-dire de les gens du futur parlent de nous comme de leurs ancêtres, donc ça donne une liberté absolue pour parler du présent et du contemporain.
Voilà. Alors les personnes qui existeront, selon vous, en tout cas dans le spectacle, sont immortelles ?
Oui, ils ont la possibilité, grâce à une invention nationale, inventée par une femme, de convertir quotidiennement leurs souvenirs et de les stocker dans des coffres-forts numériques qui sont au fond de la mer pour des raisons de sécurité écologique. Et en fait, grâce à ces copies numériques de l'âme, on peut re-télécharger ses souvenirs quand quelqu'un est mort, une mort violente, le corps a été détruit. On peut télécharger ses souvenirs dans le corps d'un autre, un donneur.
Tiffaine Raffier, vous ne savez pas faire la cuisine, mais vous avez beaucoup d'imagination.
Je sais pas. J'avoue qu'il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Le petit vélo, comme dit ma mère, s'arrête rarement et que j'ai besoin d'écrire des histoires comme quelqu'un ferait de la géométrie, c'est-à-dire de construire une constellation de thèmes qui tient, et ça me permet de tourner des pages de ma vie. Donc c'est vraiment une solution très très intime, et aussi de donner une forme à une incompréhension du monde.
Vous auriez pu choisir le roman, vous auriez pu choisir la nouvelle,
alors, le, roman,
le cinéma,
c'est...
Et c'est le théâtre et c'est le plateau qui est, pour l'instant, ce qui vous occupe le plus, non ?
Honnêtement, mon rêve ultime est d'écrire un roman. Je ne m'en sens pas encore capable et j'ai fait un court-métrage, il n'y a pas très longtemps, de l'adaptation de ma première pièce. Mais c'est vrai que le théâtre, je me sens chez moi.
Macha Makayev, vous rencontrez Tiffaine Raffier à Avignon, vous sentez que le courant passe, disait Tiffaine. Aujourd'hui, vous la programmez. Comment étiez-vous sûr de vous ? Comment saviez-vous que ces envies d'un texte allaient devenir réelles et allaient être produites sur une scène de théâtre ?
Alors ça, c'est vraiment la mission des centres dramatiques nationaux, c'est la mission des théâtres de création, que de rencontrer les artistes, que de miser, que d'écouter, que de laisser parler l'intuition et de sentir les choses. Et Tiffaine Raffier est artiste associée à la Criée, c'est-à-dire que non seulement elle reçoit quelque chose de la Criée, un accueil, mais en plus, elle donne beaucoup aussi. C'est vraiment un échange d'une maison avec un ou une artiste. Et après, vous savez, les rencontres, qu'est-ce que c'est ? C'est comme une rencontre amoureuse, ou une rencontre d'amitié, ou une rencontre criminelle aussi. On peut rencontrer son bourreau. C'est très étonnant, ça a à voir aussi avec le destin, mais ça a à voir aussi avec l'écoute. Rien n'est plus émouvant aussi que d'être sur un peu trop au soleil, dans ce festival qui est c'est très fatigant, mais là, on est sur un coin de table pas trop propre, et tout d'un coup, une jeune artiste vous donne quelques pages à lire de ce qu'elle a écrit, et vous sentez qu'il y a une promesse. C'est magnifique, en fait, c'est un beau métier.
Vous faites un beau métier, c'est ce que j'allais vous dire. Oui. Tiffaine Raffier, ça se termine au Théâtre du Nord, France Fantôme, mais ça va tourner dans quelques villes, et notamment au Théâtre de la Criée, du 9 au 13 janvier 2018. À bientôt.
Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, Maja.
Au revoir, Tiffaine.
Le grand atelier de Maja Makayev sur France Inter.
Tu dis la douleur aujourd'hui, la mort, la maladie, le corps et la mémoire, l'abandon et l'espoir. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Tu dis l'amour, l'ami, y en a encore ou plus. On a encore envie, on se plaît, on sait plus. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Seulement, parfois dans ma tête, tu vois, il n'y a que de l'eau, une poignée d'eau salée, une poignée d'eau rouillée. Économie, le don, le dû, le débit, trop de tout ou trop peu, c'est ni moins bien ni mieux. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Tu dis l'empire, la réussite, le succès, le mérite, monter dans l'ascenseur, tu avances ou tu meurs. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Seulement parfois dans ma tête. Tu vois, il n'y a que de l'eau, une poignée d'eau salée, une poignée d'eau brouillée. La peur, la solitude, le tourbillon, la poisse, les frissons de l'angoisse. Tu dis tout ça, c'est dans la tête, c'est dans la tête, tu crois.
Albin de la Simone, dans ta tête, extrait de son disque L'un de nous, un médecin. Macha Makeyev, un médecin, est avec nous, qui a commencé d'ailleurs sa vie de jeune femme par des études de théâtre, c'est Catherine Dolto. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous tenez à ce qu'on vous appelle docteur?
Justement pas, ça me fait bizarre.
Qu'est-ce qu'il faut dire de vous?
Il faudrait dire apto-psychothérapeute ou dire objet thérapeutique non identifié.
C'est joli, ça, c'est presque poétique.
Bien. Oui.
Aptothérapeute.
Il faut de la poésie pour soigner les gens.
Certainement. Il faut que vous nous expliquiez ou réexpliquiez ce que c'est.
C'est très simple. L'aptonomie, ça a été découvert par un Néerlandais qui s'appelait Frans Wellman et qui a compris que si on prenait l'appareil psychique dans son ensemble, on pouvait rassembler dans un tout, tout ce qui a trait aux perceptions, aux émotions, aux sensations, aux sentiments, aux affects. Et ce tout, il l'a nommé l'affectif, avec un grand A. Et il a compris comment il fonctionnait. C'est-à-dire que dès qu'on appelle correctement l'affectif, c'est toute la base du cerveau, le sous-cortex, qui se met en mouvement et qui, par des fibres qui lui sont propres, vient changer le tonus dans chacune de nos cellules. Et grâce à ça, on peut donner un sentiment de sécurité, affective, de complétude. Et il découle de tout ça qu'on peut aborder les humains sans séparer le corps de l'esprit. Et ça permet de renouveler complètement le regard qu'on porte sur le soin et l'éducation au sens large du terme, parce qu'à ce moment-là, on a une vision de l'intelligence et du développement de l'enfant qui passe par l'affectif. Et donc avec ça, on peut accompagner des gens qui attendent des enfants, organiser le contact par enfant, c'est une partie de mon travail, mais aussi faire des thérapies. Donc c'est une pensée post-freudienne qui a ceci de très particulier, c'est que dans la thérapie, on s'adresse au moi conscient, et en même temps, parce qu'on est dans la chair, on s'adresse aux émois, aux mémoires les plus archaïques, pré-langagières.
Vous me permettez une petite remarque sur votre voix?
Oui.
Vous avez un peu le timbre de Françoise Dolto, votre mère.
Ah, mais tant mieux.
C'est une petite fille qui, d'ailleurs, ne me dit pas son âge. Enfin, oui, elle va à l'école. Oui. Et elle a une petite sœur qui a 1 an et demi. Je crois que, pour qu'elle se reconnaisse, je vais lui dire que c'est à elle que je réponds, à Ségolène. Et Ségolène, vous avez une petite sœur qui est tout à fait gentille à 1 mois et demi, à 1 an et demi. Mais elle ne peut faire qu'une chose, c'est évidemment aller chercher toutes vos affaires, les tirer, les démolir, les déchirer et vous embêter. Et vous me dites dans votre lettre, je sais ce que vous allez me dire de m'enfermer dans ma chambre. Mais déjà, je suis enfermée à l'école, alors si je m'enferme dans ma chambre pour jouer, qu'est-ce que je vais devenir? Eh ben, il faut choisir. Ou bien vous jouez avec votre petite sœur pendant 1/2 heure, pendant 3/4 d'heure à des jeux qui ne démolissent rien chez vous. Ou bien vous restez dans votre chambre à vous amuser avec des jeux qui vous amusent, mais que la petite sœur ne peut pas supporter, et c'est comme ça. C'est comme ça dans la vie. Mais enfin, allez, consolez-vous, fermez votre porte un peu pour vous amuser, et puis un peu, avec cette petite sœur Caspienne, ne le sera pas toute la vie.
Je me trompe, Macha Makeyev?
Non, pas du tout, vous ne vous trompez pas, et je pense que la filiation, c'est de ça dont il est question aussi. Ma rencontre avec Catherine, c'est vraiment un privilège. C'est comme si vous rencontriez votre sœur. C'est quelque chose.
Il y a longtemps d'ailleurs.
Oui, il y a longtemps.
Il y a 20 ans, je crois.
Et pour moi, Catherine, c'est une fée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien entre les artistes et elle, entre elle et les artistes. Elle nous comprend tout de suite. Elle nous apaise tout de suite. La science qu'elle développe, parce que c'est très savant, a vraiment à voir avec le théâtre, avec justement ces émotions archaïques, avec cet effroi primordial, avec ce bonheur primordial. Je pense que quand on fait du théâtre, il faut savoir faire le chien, il faut devenir un idiot un peu à un moment donné. Il faut revenir à cet état un peu zéro, comme ça, de la conscience et de la façon d'être, et dans son corps aussi. Et c'est ce qu'elle nous enseigne très vite, sans enseigner jamais, elle vous le transmet. Donc quelque chose se dit, et puis c'est aussi le lien qu'elle a avec Françoise Dolto, qui a été pour moi une révélation, vraiment.
Vous l'écoutiez quand elle était sur France Inter ?
Non seulement, mais je l'ai même lue et relue, et c'était un être éblouissant, et quelquefois la vie a vraiment beaucoup de talent de ce point de vue-là.
Catherine Dolto.
Oui, mais je suis aussi la fille de Boris Ivanovitch Dolto. Et je partage avec Masha aussi ça, c'est-à-dire...
Les origines russes.
Que mon père était russe et il est venu à 22 ans, il avait accent, il parlait comme ça, et il disait tout le temps, si tu avais été comme moi, clochard, sur les quais de Constantinople à 20 ans, tu me ferais pas chier comme tu fais chier maintenant. Parce que, voilà, il était parti dans des conditions formidables. Et c'était un grand médecin de médecine physique, un rhumatologue, un ostéopathe, c'était un type merveilleux. Pas facile à vivre, mais merveilleux. Et moi, je me sens vraiment... J'ai eu la chance de trouver un métier où je peux utiliser tout ce que j'ai appris des deux, mais en défrichant mon propre champ. L'autre chose que je partage avec Masha, c'est Antoine Vitesse, parce qu'à l'école Lecoq, on avait Antoine Vitesse.
Vous avez
prof.
Fait l'école Lecoq, qui était fondée, qui existe toujours, mais Jacques Lecoq est mort, sur le corps, sur une scène.
Oui. Enfin, sur la personne, parce qu'il n'y a pas... Moi, quelquefois, quand les gens me parlent trop de leur corps, j'écoutais, la prochaine fois, venez sans votre corps, j'y verrai plus clair. Et là, ils comprennent que c'est absurde, quoi. Donc, on travaillait. Oui, il y avait 2 heures d'éducation corporelle le matin. Il y avait de l'acrobatie, c'était formidable.
Vous pouviez faire le chien ou le clown.
Tout ça. Mais quand on soigne un bébé aussi, il faut savoir faire ça. Avec un petit, on est à quatre pattes et on a son âge. Il faut rentrer dans l'âge de la personne qui est en face de nous. C'est ça qui est magique. Et je dois dire que dans mon travail quotidien de thérapeute, ce que j'ai appris d'Antoine Vitesse et de Lecoq, ça m'inspire, mais tout le temps. Mes maîtres, ils sont là. Alors, j'ai eu des grands maîtres en médecine aussi, mais ils sont là. Et c'est pour ça qu'après, j'ai pu revenir au théâtre. Je fais des spectacles avec Emma Lacloun. C'est très bizarre, parce que c'est un parcours complètement éclaté. En même temps, moi, je sais qu'il est complètement cohérent.
Tout à fait.
Ce que je retiens, c'est relier le corps à l'âme.
Ben, on ne peut pas les séparer.
J'ai l'impression que c'est vital dans votre fonctionnement à vous.
Oui, parce que je pense que chaque fois qu'on sépare le corps du reste, on fait du tort à l'être.
C'est venu très vite, ça, cette idée du corps rattaché à l'esprit, Masha Makeyev. Je pense aux des chiens. Ils étaient bien vivants et justement, l'âme et le corps étaient ensemble là, quand vous travailliez avec eux.
Oui, hein. Bien sûr, mais vous savez, les chiens, c'était d'abord des acteurs de théâtre. C'était tous les soirs au théâtre... un spectacle qu'on défendait. Et c'est vrai que le corps, c'est quelque chose qui... Il est hanté, habité. Je crois même qu'il y a de vieilles âmes qui sont là, emprisonnées. Il y a des gens qui viennent de très, très loin. Et Catherine est ma sœur aussi à cause de Boris, oui, bien sûr. Parce que Clochard à Constantinople, ça nous dit quelque chose à l'une et à l'autre.
Justement, ça fait quel type de femme ? D'être héritière de ça, Catherine Dolto.
Je pense à faire quelqu'un qui est sans arrêt sensible, tout le temps, énormément à toutes les douleurs du monde et à la douleur des migrations. La souffrance des migrations, moi je la porte à travers mon père. C'est indescriptible, mais c'est quelque chose qu'un enfant perçoit complètement. Et puis ça fait quelqu'un qui déteste être enfermé dans une cloison, dans une limite, qui déteste les interdits de pensée. Moi, en fait, je suis trans, je suis transculturelle et je suis transdisciplinaire tout le temps. Parce que l'âme, l'affectif, c'est transdisciplinaire par essence, ça traverse tout l'être. Si on redonne sa dignité à chaque perception et à la façon dont elle est filtrée et dont elle vient inspirer la pensée, on pense à partir de ce qu'on perçoit. C'est une folie de croire que c'est le cerveau qui commande. Le cerveau, il reçoit les perceptions, les sensations, et il trie, et puis il renvoie. Mais c'est beaucoup plus complexe, le fonctionnement d'un être humain, qu'on croit. C'est d'une complexité passionnante.
Catherine Dolto, parmi les patients qui viennent vous voir, est-ce qu'il y a des cas récurrents ? Ou des demandes récurrentes ?
C'est le manque d'amour, le mal récurrent des humains. Finalement, les problématiques humaines, ça tourne autour de très peu de choses. C'est la peur, la jalousie, le manque d'amour, la peur d'être abandonné. Ça, c'est parce qu'on est très dépendant. Par contre, chacun est d'une créativité incroyable dans sa manière de mettre ça en scène dans sa vie. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que, en même temps, on sait toujours à peu près ce qu'on va trouver, mais le chemin pour le trouver et pour aider, il est inimaginable, a priori.
Et vous avez retrouvé la scène, vous le disiez rapidement, avec Emma Lacloune, vous avez créé, oui, il y a quelques années maintenant, oui, un spectacle que vous tournez régulièrement,
plusieurs,
que vous donnez,
on a trois spectacles,
plusieurs, notamment la conférence.
Oui.
Où là, vous jouez la psychothérapeute sur scène.
Je suis moi, mais dans les trois spectacles, je suis moi. Un peu moins dans Humain, enfin. Non, un peu moins dans Humain, mais moi, mon idée, c'est qu'il faut partager les connaissances. Parce que c'est un tel privilège d'apprendre. Donc, moi, j'aime cette idée. Et donc, je cherche par tous les moyens. Donc, avec les patients, avec les étudiants, dans les petits livres que je fais pour les enfants, et au théâtre. Et en fait, je dis tout le temps la même chose. Partout. Mais avec des angles différents et des manières de dire qui font que j'arrive à diffuser. Parce que j'ai beaucoup reçu, quelquefois, les gens me disent « Ah, ma pauvre, ça doit être terrible d'être la fille de Françoise Dolto, etc. Vous n'avez pas marre d'être dans son ombre ?» Je dis « Ah oh, ben non, moi je suis dans sa lumière, ça ne me gêne pas du tout, tout va bien. » Mais j'ai une théorie sur les fées qui se penchent sur les berceaux. J'appelle ça les fées banquières. C'est-à-dire que quand les fées se penchent sur un berceau, elles apportent ou de la beauté ou de la richesse ou du pouvoir ou tout ce qu'on veut. Et en fait, elles ne donnent pas, elles prêtent. Parce que si on ne leur rend pas, on est étouffé par ce qu'on a reçu. Alors, comme moi, j'ai beaucoup reçu, bah, faut que je rende beaucoup.
Il y a cette idée aussi chez vous, Masha Makeyev, de rendre des choses que vous avez pu avoir et qui sont des choses bonnes, positives.
Oui, moi, je rends compte plutôt, parce que c'était pas si simple, mais je me rends compte qu'on a tout un héritage. Il faut en rendre compte, poétiquement au moins.
Catherine Dolto, merci d'être venue dans le grand atelier de votre amie qui vous appelle la fée, Masha Makeyev. Vous sortez aussi des petits bouquins pour les enfants, là.
Oui, chez Gallimard, hein, oui. Mine de rien.
Il y a Harceler, harceleur, que vous co-signez avec Colline Faure-Poiret, et puis Les mots et les images qui font peur. Voilà.
À propos des attentats.
Merci de nous aider à avoir moins peur.
Merci.
On va écouter Tchégué. Vous connaissez Tchégué, Masha?
Pas du tout.
Makeyev, c'est Fatih Sissabané qui est surnommée Tchégué comme les enfants des rues de Kinshasa.
Oh.
Où elle est née, ça donne la pêche. Mm-hmm. C'est une musique imprégnée de courants musicaux multiples. On va entrer dans une sorte de transe. C'est bien aussi la transe.
Oui.
Avec cette chanteuse et son partenaire Nicolas Dacunha, Tchégué. Mama say
Grand Atelier, Vincent Josse sur France Inter.
Tchégué, je vous ai vu bouger un petit peu, Macha Makiev.
Ah oui, c'est énergique, c'est bien.
Vous dansez, vous ?
J'aime bien danser toute seule dans ma salle de bain ou dans ma cuisine. J'aime bien danser.
Ah oui, sur quoi ?
Sur des vieilles choses, des vieilles valses, des vieux tangos, mais aussi sur des choses que je découvre en écoutant France Musique notamment, en écoutant des radios comme ça au hasard. J'adore le hasard à la radio. La radio a ça de magnifique. Vraiment, on sait pas ce qu'on va entendre et je regarde jamais les programmes avant et il y a des rencontres comme ça, musicales, de personnalités, des bribes. C'est très important la radio, surtout la nuit pour les insomniaques comme moi.
Bon, j'espère que vous écoutez aussi France Inter la nuit.
Bien sûr, j'écoute France Inter, évidemment.
Macha Makiev, on va partir pour Marseille au Théâtre de la Criée, que vous connaissez bien, que vous dirigez depuis combien d'années maintenant ?
6 ans.
Et vous y mettez en scène La Fuite de Bulgakov. Oui. Bulgakov, auteur et dramaturge russe de la première moitié du XXe siècle, qui fait partie de ces gens que vous aimez, qui sont les empêchés. Lui a eu beaucoup de soucis avec Staline et écrire, être publié, être joué a toujours été extrêmement difficile, voire impossible parfois. Alors dans La Fuite, il raconte en 8 songes le sort des Russes blancs en exil. Il raconte la folie, le désordre de la Révolution, la douleur qu'elle a engendrée. Alors on va partir au Théâtre de la Criée en répétition de La Fuite. C'était il y a quelques jours. On va vous entendre, Macha Makiev, mais aussi découvrir deux de vos comédiens, Pierre Ancis et Alain Fromager.
Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон.
Le spectacle, c'est La Fuite de Bulgakov, une pièce qui est peu montée, une pièce des années 20 qui parle des exilés, qui raconte ce que c'est que de devoir de s'arracher à son pays. Ça vous parle, ça, Macha Makiev, parce que du côté paternel, mes grands-parents ont vécu cet arrachement.
Oui, mes grands-parents, Olga et Georges, ont vécu l'exact chemin que décrit La Fuite, c'est-à-dire quitter le sud de la Russie pour se retrouver acculé en Crimée, puis à Sébastopol, et puis embarqué pour Constantinople, et puis embarqué Dieu merci pour la France, sur des bateaux en très mauvais état, mais la France a été le dernier allié fidèle aux Russes blancs. Et ce qui est magnifique chez Bulgakov, parce que c'est quand même lui le grand poète, ce qui est magnifique, c'est de se dire, dans les années 30, alors qu'il y a vraiment, comment dire, le diktat de la célébration de ceux qui gagnent, des rouges, des soviétiques, de l'homme nouveau, etc., lui prend le parti de regarder les vaincus. Donc ça, son insolence lui coûtera cher. Lui coûtera très cher puisqu'il sera censuré, il ne sera pas, jamais publié, jamais joué de son vivant, notamment La Fuite. En plus, La Fuite, c'est aussi celle dont il rêve. Il aimerait tellement partir. Il aimerait tellement quitter un moment la Russie et connaître, lui, cet exil qui lui permettrait la libre expression. Voilà, il disparaît d'épuisement vraiment. Il n'a pas 50 ans.
Pierre Ancis, vous n'êtes pas marseillais, vous ?
Ah non, je suis parisien, moi, pur jus, enfin d'origine belge.
Pierre Ancis, on est dans ce qu'on appelle la fabrique, ici, à la Criée, juste au-dessus du plateau. C'est l'antre de Macha Makiev. Ouais.
Alors, on est dans un attique, déjà. On est vraiment au sommet de la Criée, c'est la pièce la plus haute. C'est un espèce de grenier, une espèce de caverne d'Ali Baba, un truc avec des objets improbables un peu partout.
Qu'est-ce qu'il y a, par exemple ? On peut se promener, d'ailleurs.
Là, déjà, il y a un flamand rose.
Enfin, ouais, empaillé.
Empaillé, oui, pas un vrai. Il y a un singe empaillé, il y a beaucoup d'animaux.
Il a un collier.
Oui, il a un collier. Il a
des bracelets.
Il a des bracelets, c'est un singe assez coquet. En même temps, pas franchement rassurant. Un gros chien là-bas aussi, un énorme dog, avec des bijoux aussi. Les animaux portent des bijoux, mais c'est déjà Bulgakov aussi. Il y a une espèce de décalage, c'est le chat du chat et Marguerite. Il y a des photos aussi. Ah oui, c'est...
David Lynch.
Ouais, il y a David Lynch. On sent qu'il y a des références aussi à énormément d'univers graphiques et artistiques différents, comme des espèces de modèles où elle irait puiser, ou en tout cas peut-être des totems posés ici et là. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je me raconte.
On va fouiller un peu ces livres. Il y a un livre de Solzhenitsyn, Mars 17. Là, on est dans les années Bulgakov. Hein.
Ouais. En même temps, je pense que sur le sujet, elle a dû lire énormément de choses et s'inspirer de beaucoup d'éléments. Moi, par exemple, sur le personnage d'Arthur, elle m'a parlé de beaucoup de poètes de l'époque, de danseurs, etc. Juste sur mon personnage. C'est-à-dire qu'elle a fait vraiment masse d'énormément d'éléments pour les fondre ensuite dans le spectacle.
La réplique sur les sangsues. Ouais, tu es là ou tu es où? Je te vois pas et je t'entends pas. Merci. Sur les sangsues, je voudrais que tu sois à nouveau de dos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand il dit une chose antisémite, tu es sur le dos, tu es de dos, il ose le dire, ouais. Puis tu le regardes, etc. Puis tu te mets de dos et hop, les sangsues, et tu le regardes à nouveau. Hein? Donc deux fois de dos, ok?
Ok.
Merci bien. Voilà. Mais c'était bien le rythme, Pierre, hein? Vraiment. Et tu vois, c'est ça qui rythme toute la course. Hein?
Le Grand Atelier sur France Inter.
C'est comment de travailler avec Macha Makeyev? C'est la première fois pour vous, Pierre Ancis?
C'est la première fois que je travaille avec Macha. C'est de la précision d'abord. Elle est impitoyable sur la musicalité, mais vraiment. Et elle a raison parce qu'elle construit cette pièce comme un vaudeville. Et du coup, il y a une forme de musicalité où si la mécanique n'est pas parfaitement huilée et où si ça tourne pas comme un vieux gringrin sur la place d'un marché, comme un métronome, ça perturbe la dynamique qui est importante dans une pièce comme La Fuite.
Macha Makeyev. J'ai pas mal bougé là dans votre théâtre. Je suis passé du restaurant à votre fabrique, votre atelier.
Oui.
Une sorte de grenier de rêve au fond.
Oui.
Et là, on est où?
Là, on est vraiment dans l'atelier costume. C'est vraiment un atelier que l'on constitue pour les créations.
Le costume, c'est aussi un peu la marque Macha Makeyev. Il n'y a pas que les objets.
C'est la même chose, après tout. C'est la part plastique du théâtre. Et je ne fais pas la différence, vraiment, entre ce qui est le décor et les objets, les costumes. Tout ça, c'est un seul et même matériau, c'est un seul et même récit.
En même temps que vous me parlez, je balaye des yeux la salle et j'aperçois des chapkas.
Je vais vous dire des secrets.
Ah, dites-nous des secrets.
Alors là, ça, c'est mon coin où il y a des livres de peinture, toujours, bien sûr, parce que les grands inspirateurs sont toujours les peintres. Je crois qu'ils sont là initialement et on y revient tout le temps. Il y a aussi des cahiers avec des archives et des costumes et voilà, des choses que. Des livres aussi sur la Russie des années 20, mais aussi sur la mode, parce qu'il y a des grands couturiers que j'aime infiniment. Et puis.
Qu'est-ce que c'est ça?
Ça, c'est les boutons, il y a tas de choses, des colliers, des grelots, ce sont des choses. Là, au fond, c'est tout ce qui n'a pas encore servi ou des petits bouts. C'est une espèce de fond que je transporte toujours pour tous les costumes. Cet été, c'était Iris Mena. J'arrive toujours avec une ou deux cartons, une ou deux valises avec des tas de choses et je puise là-dedans. Et puis là, comme je vous dois bien un secret, Vincent, là, voilà. Lui, c'est Crocodile. Il arrive de. C'est un jouet soviétique que j'ai trouvé au marché aux puces de Perm, dans l'Oural. Et il m'attendait, là, sur un étal. Il faisait déjà moins 25, moins 26. Et j'ai trouvé Crocodile.
Un tout petit crocodile qui a la taille d'une main,
oui,
en plastique.
C'est ça, avec des gros yeux. Il est tout en plastique.
C'est votre fétiche?
Oui, en fait, c'est le gris-gris du spectacle. Et on va le cacher dans le décor, et à chaque représentation, il sera là.
Oh, marché conclu.
Je vous en prie. Il est 5 heures, le spectacle va commencer. Mesdames, messieurs, prenez vos billets, prenez la ligne.
J'entre dans une loge avec un acteur à moitié nu. Alain Fromager, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites, la maquillée en caleçon?
Écoutez, je me prépare à faire un filage de La Fuite de Bulgakov, mise en scène par Makeyev, voilà. Et comme on a des personnages qui ne ménagent pas leur organisme, alors on se protège, etc.
Et puis des coudières.
Coudières, genouillères, parce qu'il y a pas mal de chutes.
Je vous ai vu tomber, oui, tout à l'heure.
Il y a pas mal de chutes. Et en fait, c'est aussi le projet de Macha, c'est que chaque acteur interprète plusieurs personnages, parce qu'en fait, c'est une troupe qui se constitue sur 2 mois et demi, avec des gens qui se connaissent pas bien. Et donc, on s'est retrouvé dans le travail beaucoup sur ces changements de rôle, mais aussi sur des parties qui sont chantées, des parties qui sont jouées avec des accordéons. Et donc, ça a cette vertu de créer assez rapidement un groupe cohérent. Et d'autant plus que celui-là est assez hétéroclite, puisque des gens viennent du champ, on n'a pas tous les mêmes formations, les mêmes parcours. Et de se retrouver dans cette grande aventure bulgakovienne, ça n'est pas rien. Voilà.
Vous aviez déjà travaillé avec
elle ? Non, c'est la première fois. C'est un regard, c'est une voix, c'est un corps, c'est une façon d'être là, pas là, d'être trop, d'être là d'une façon un peu aiguë, incisive, puis il y a ce coup de disparaître. Enfin, moi, ça me, moi, elle me touche énormément, cette femme, donc je suis très heureux. Voilà, chouette.
Eh bien voilà, ça existe maintenant sur scène à Marseille, au Théâtre de la Criée, La Fuite de Bulgakov, mise en scène par Masha Makayev, et puis ça va tourner en France. Vous êtes plus tranquille qu'au moment où je vous ai vu, quelques jours avant la première?
Oui, je suis plus tranquille parce que je suis un peu loin du plateau. Je vais les rejoindre ce soir, bien sûr. Ils auront joué deux fois en matinée pour des adolescents. La salle sera pleine d'adolescents et ça c'est très important. Et ils ont la générosité de jouer deux fois et ce soir devant un autre public. Donc j'arriverai au milieu de la représentation, mais je ne quitte pas le plateau, je ne les quitte pas. D'abord, j'aime infiniment cette troupe. J'aime beaucoup les acteurs parce que pour moi, ce sont vraiment des inventeurs, des artistes à part entière, avec des propositions, avec aussi ce qu'ils transportent de très loin. On a l'impression que leur a été confié tant de choses. En l'occurrence ici, ils sont extrêmement poétiques, ils sont extrêmement virtuoses aussi, parce que Bulgakov demande qu'on change de registre dans de vraiment très très vite, et ils sont très souples. Et surtout, ce qui m'émeut toujours autant, c'est qu'ils vous font confiance. Et que moi, quand j'arrive, j'ai plein de doutes aussi. Je le montre pas forcément tout le temps, mais quelquefois si. Et vraiment, ils proposent sans arrêt, on travaille ensemble. Ce que dit Alain de l'aspect hétérogène de la troupe aussi, c'est très important. Moi, je crois beaucoup à ces chimies qui se forment là, avec des êtres qui n'avaient pas envisagé de travailler ensemble, avec des disciplines différentes.
Et des chanteurs d'opéra.
Et des chanteurs d'opéra, Thomas et Émilie Pictet, Thomas Maurice. Un magnifique acteur
de la scène subventionnée comme Alain Fromager.
Oui.
Un jeune comédien qui était à la Comédie Française, Pierre Ancis.
Et puis Vanessa Fonte est magnifique. Et puis tant d'autres. Enfin, ils sont tous. Ils sont 11 sur le plateau. Sylvain Lévite, qui a travaillé aussi dans Trissotin, qui a repris le rôle de Trissotin lui-même. Admirable jeune acteur. C'est tellement émouvant, là aussi, de voir la pertinence, l'intelligence d'un jeune acteur comme ça. Et ce qu'il vous donne. C'est assez bouleversant parce que c'était un grand chantier, hein, la fuite. Et puis j'associerai aussi à cette troupe les régisseurs qui sont vraiment aussi de la troupe parce que c'est eux qui métamorphosent le décor à vue pour le spectateur. Et ils le font avec des gestes d'une précision et d'un charme absolu. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup répété tout le temps avec nous ces déplacements de décors et d'objets. Et il participe vraiment profondément de l'harmonie du spectacle.
Je vous ai vu répéter, Masha Makayev, j'ai entendu vos acteurs, j'ai passé une après-midi là-bas avec vous et une soirée. Il m'a semblé que c'était peut-être pas le spectacle de votre vie, mais en tout cas qu'il était essentiel, que vous misiez beaucoup sur la fuite.
Oui, il y a dans chaque spectacle que l'on fait, parce que ça touche à l'intime à chaque fois, mais là, plus que jamais, quelque chose de testamentaire. C'est-à-dire, je rendais compte d'un héritage. C'était aussi une littérature que j'abordais, qui me tient tellement à cœur de rendre compte. C'est aussi, on se le disait avec les acteurs, une pièce qu'on fait connaître parce qu'elle a été longtemps endormie. Depuis 70, on l'a pas entendue en France. Tout ça était une mission étrange et qui m'a longtemps hantée. Et voilà, c'était très important dans ma vie artistique, là, à ce moment-là de ma vie, oui.
Le grand atelier de la metteuse en scène, costumière, décoratrice, amoureuse de musique, glaneuse d'objets, directrice du Théâtre de la Criée à Marseille continue. On vous retrouve dans un tout petit instant, Masha Makayev, le temps de prendre connaissance de l'info. Retour en studio avec Masha Makayev, deuxième heure de votre grand atelier. Vous affichez un grand sourire. Pour quelle raison?
Pour quelle raison? Parce qu'il y a autour de cette table les gens que j'aime infiniment, de façon différente, bien sûr. Il y a Amandine Maillot, qui est vraiment une jeune plasticienne, qui fait des choses qui me touchent infiniment et dont elle parlera, je crois, avec beaucoup de finesse.
Et ce jeune homme? Et
ce jeune homme, c'est Théo Mercier, que je connais depuis peu. Mais là aussi, une vraie rencontre, parce que je suis allée dans son atelier. Il y a un artiste qui vous reçoit là et qui parle de ce qui fait sa vie, de ce qui constitue sa vie. Et c'était un moment d'émotion, mais aussi de découverte. Il y a quelque chose qui m'a intriguée tout de suite, que je ne comprenais pas tout à fait. Et ça, c'est là aussi une vraie promesse.
Bonjour Théo Mercier.
Bonjour.
Bonjour Amandine Maillot.
Bonjour.
Vous avez l'habitude de la radio, Amandine ?
Pas du tout.
Je ne sais pas pourquoi je le devine. Ben on va peut-être vous poser les premières questions, Amandine Maillot. Vous avez fait quelles études, vous ? C'est quoi votre formation ?
Alors moi, j'ai suivi une double formation donc, qui mêle les arts plastiques et la scénographie, donc au pavillon Bozio à Monaco. C'est ce qui m'a permis aussi d'aborder quelque part la mise en scène, mais peut-être justement du point de vue des arts plastiques et non pas de la scène. La scène, c'est plutôt Macha qui est venu compléter mon regard par des stages que j'ai faits à ses côtés.
Comment Macha vous rencontrez, Amandine ?
Parce que je m'intéresse à une école qui s'appelle le Pavillon Bozio, dont Amandine a parlé. J'y suis assez souvent, on fait des interventions auprès d'Isabelle Lombardo, sa directrice. Je suis auprès d'elle, on réfléchit à comment cette école évolue, qui est une école très ouverte, très intelligente. Et
qui enseigne quoi ?
Qui enseigne la scénographie, mais aussi toutes les formes de l'art. Et surtout, non seulement, on n'enseigne pas à l'art, en fait. L'art, ça s'invente soi-même.
On livre des expériences.
Mais on leur donne aussi la façon de montrer leur production. Et puis surtout, c'est des rencontres comme ça, exceptionnelles. Et c'est aussi une grande exigence. Beaucoup de travail, beaucoup de concentration, des moyens, un parcours. Et des étonnements à chaque saison, des étonnements incroyables en voyant ces jeunes artistes.
Est-ce que vous avez vu une œuvre d'Amandine Maillot que vous pourriez nous décrire ?
Oui, plusieurs. Alors là, j'ai l'embarras du choix. Mais par exemple, il y a un fauteuil. Alors c'est un fauteuil, vous savez, un peu petit bourgeois, très confortable, qui a des petits airs de style, on ne sait pas trop, c'est un peu 19e, etc. Et puis, il devient un personnage parce qu'il est ventru. Et Amandine a inventé un coussin qui ressemble à un être un peu ventripotent, comme ça, quand même assez suave et élégant. Et c'est à la fois l'objet qui reçoit et la personne qui reçut. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une âme dans ce fauteuil. Et en même temps, ce que propose Amandine est extrêmement joyeux. C'est-à-dire qu'elle a le sens aussi d'une certaine réjouissance, même si ce qu'elle dit est assez parfois grinçant. Dans la mise en scène, la façon d'accomplir les choses, évidemment, elle travaille autour des objets, donc ça m'a beaucoup, beaucoup touchée.
Oui, vous êtes un peu cousine sur ce plan.
Oui, vraiment, ça me touche, mais avec un univers qui lui est absolument singulier.
Amandine Maillot, ça raconte quoi, un objet ? On peut l'utiliser pour dire quel genre de choses ?
Bah, avant toute chose, nous. C'est vrai que j'avais peut-être trop de pudeur pour aborder des thèmes qui me tenaient à cœur, qui sont plutôt de l'ordre de l'immatériel, mais qui nous décrivent, en fait. Et c'est vrai que l'objet, pour moi, devient un petit peu c'est surtout l'objet quotidien, domestique, qui deviennent un peu, justement, des sortes de témoins de nos vies, les seuls témoins aussi de ces scènes qui se passent un peu à l'abri du monde, dans les maisons. Et puis quelque part, qui s'imprègnent sans jamais rien dire. Et j'aimais bien l'idée, justement, de représenter ou de dire l'humain en creux à l'intérieur d'eux, en fait.
Oui, vous aimez les lieux intimes, la maison, les chambres ?
Mais parce que je pense que c'est le premier lieu aussi dans lequel on se construit, où la question de l'héritage familial, justement, cette question de transmission, elle est un peu au cœur de mon questionnement. Savoir la manière dont on échange, dont on partage ses liens, et comment ces liens, justement, viennent un petit peu s'infiltrer un peu partout en nous-mêmes, et comment, justement, ça vient aussi teinter notre regard et peut-être orienter des comportements, des choses qu'on a peut-être un peu du mal à défaire dans le temps. Et je pense que c'est dans la conscience ensuite de ces choses-là qu'on a la possibilité de s'en émanciper.
Théo Mercier, vous entendez ce qu'on raconte sur l'objet. Vous aussi, vous mettez en scène, si je puis dire, dans vos installations, des objets.
Ah, tout à fait.
Et on peut parler de choses graves aussi avec des objets, mais d'une manière drôle parfois. Je pense à l'une de vos sculptures, c'est un homme tassé comme ça sur un tabouret, le dos un peu voûté, et il est totalement recouvert de spaghettis. Donc il y a quelque chose de très drôle, d'assez burlesque, et on sent que tout le poids de la vie, de la souffrance et du monde est sur les épaules de cet homme spaghetti.
Oui, c'est juste. Bon, c'est une pièce assez ancienne, donc bon,
Mais elle vous a fait connaître, hein ?
Effectivement, elle est placée au début de ma courte histoire d'artiste. Moi, je suis issu d'une famille aussi de collectionneurs d'objets. Et voilà, au cours de mes études, je me suis orienté plutôt vers la production industrielle en me disant c'est l'objet qui m'intéresse. Alors, je veux fabriquer peut-être des objets, des automobiles, des bouteilles de shampoing, je ne sais pas. Et en fait, je me suis aperçu en grandissant à ce moment-là, plutôt, j'avais pas commencé à vieillir encore, que les objets qui m'intéressaient, c'était non pas ces objets-là, mais c'était ces objets sculptures qui étaient comme des objets magiques, quoi. D'une certaine manière, des objets d'artistes, quoi.
Il y a par exemple un fossile que vous avez encadré avec un pneu Goodyear. Et ouais. Ce mélange, j'allais dire, du beau et du laid.
Ce qui m'intéressait là, plus que la question du beau et du laid, c'est la question de la trace. Quelle est celle qu'on veut à tout prix préserver et celle qu'on veut effacer? Notre empreinte carbone ou la grotte de Rouffignac ou je ne sais pas, un mural. Et c'est véritablement l'idée de la trace. Et en tant qu'artiste, cette question de la trace est évidemment essentielle.
On est très Macha Makeyefien là autour de cette table.
Alors, eh bien non, mais pas
la trace.
Oui,
ça
bien
fait
sûr.
Partie
mais écoutez, ils sont l'un et l'autre extrêmement insolents dans leur travail, et c'est ça que j'aime. C'est extrêmement puissant. C'est pas forcément aimable, même si c'est une réjouissance, même si c'est a priori, vous regardez quelque chose qui est bon pour la rétine. Vous dites ah c'est. Et puis quand vous approchez, il y a vraiment quelque chose de profond, il y a quelque chose qui dit la cassure, qui dit la cassure du temps. Enfin, ce sont des artistes profonds, et ça c'est important. Et puis ils aiment la scène aussi, l'un comme l'autre. Et Théo, il fait un spectacle.
Oui, progressivement vous êtes venu, et même assez vite, à la scène. Vous mettez en scène, et vos origines de plasticien sont aussi sur la scène.
C'est pas non plus véritablement une nouveauté, parce que cette question de la mise en scène, elle existait effectivement déjà énormément dans mon travail de sculpteur, et au même au sein de mes expositions qui ont toujours été justement très mises en scène. Avant, effectivement, mes acteurs étaient les objets, et maintenant mes acteurs sont les acteurs. Et le spectateur devient presque un public de sculpture, une audience de sculpture, d'une certaine manière.
Macha Makeyef, des plasticiens qui sont aussi des hommes de théâtre, il y en a pas mal dans l'histoire du théâtre.
Ah oui, 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 bien
sûr. En ce moment, Castellucci, Romeo Castellucci en est un.
Oui,
et
oui,
pas
oui,
des moindres.
Puis, bien sûr, oui, mais il y a aussi les grands prédécesseurs, comme on évoquait la Russie des années 20-30 quand même. Et puis il y a les ballets russes qui sont vraiment pour moi le modèle absolu du mélange des disciplines et la beauté et la puissance et l'insolence de ce mélange de danse, de corps, de décors, de costumes. Enfin, c'est ceux-là qui m'ont donné envie de la scène aussi. Maintenant, il faut dire que Théo Mercier va venir à la Criée, il va venir faire ce qu'on appelle chez nous une invasion, c'est-à-dire qu'on demande à un ou une artiste de venir sur la scène, mais aussi de déborder et d'envahir tout le théâtre. On s'introduit, on a fait ça avec Pierrick Sora, on a fait ça avec Fia Ménard, des grands artistes comme ça, et c'est très, très important que le public ressente vraiment tout un univers. Et Amandine va aussi se répandre dans le théâtre et dans le hall et sur le pont supérieur. C'est très important qu'un théâtre fasse entrer les plasticiens et que les plasticiens envahissent le plateau. Voilà, ça c'était vraiment un des projets.
Il y a une magnifique vidéo d'Amandine Maillot qui s'intitule « Vanité », oui, où vous filmez le temps qui passe d'une manière, j'allais dire, très simple. C'est une théière que vous filmez sur la durée,
oui,
et elle se désagrège. Et là, Macha Makeyef, on pense à nous.
Tout à fait, il y a quelque chose du dialogue avec soi-même, avec un objet très simple, mais filmé avec virtuosité, qui dit la fragilité de nos existences. Après tout, c'est ce genre d'émotion qu'on va chercher.
Amandine Maillot, merci.
Mais
on
merci
vous voit
vous.
Quand à la Criée, alors, si on veut voir votre travail.
Début janvier, à partir
début janvier,
oui.
Donc, d'ici deux mois.
Oui.
Et vous, Théo Mercier?
À la Criée.
La saison prochaine.
La saison prochaine, ouais.
C'est un grand projet, ouais, alors qu'il faut. Ouais.
On retrouve le piano de Paul Lai, mm-hmm, si vous voulez bien. Le mystérieux Paul Lai, comme vous disiez tout
oui,
à l'heure.
L'énigmatique.
Hein. L'énigmatique, en tout cas sa musique, les valses rouges. Paul Lai, en direct, dans le grand atelier de Macha Makeyef sur France Inter.
Thank you.
Paul Lai sur France Inter. Paul Lai qui sera mardi en trio au Nancy Jazz Pulsation, qui sera le 9 janvier à la Philharmonie de Paris pour un hommage à Billie Holiday, et le 17 février chez vous, oui. Macha Makeyev, au théâtre de La Criée.
Oui, pour toute une nuit du jazz, parce que c'est pas par hasard, le 17 février, c'est, on lance MP18 partout sur le, dans notre territoire et dans Marseille, c'est-à-dire qu'on, c'est un écho à Marseille-Provence, capitale européenne de la culture. Donc voilà, c'est une espèce de fête de l'art et de la culture partout sur le territoire. Et on commence par les enfants le 14, on célèbre les enfants et l'art. Et puis le 17, c'est un partout. On ouvre nos maisons et on fait de la musique, et on fait de la danse, et on donne du théâtre. Enfin voilà, ça va être des moments très forts.
Présentez-nous Thierry Tionyang. Thierry Tionyang qui est chorégraphe, mais qui ne travaille pas avec des danseurs professionnels.
Thierry, là voilà une rencontre et un choc. C'est-à-dire qu'il associe à la fois vraiment l'art de la danse. Il est un véritable artiste. Et en même temps, il rend celui qu'il fait danser absolument, il lui donne la grâce. Il invente l'espace avec des êtres qui ne sont pas faits pour ça, a priori. Il fait danser des gens très, très, très âgés qui ont perdu la mémoire, des enfants qui sont un peu cabossés, cassés, mal en leur peau. Et tout d'un coup, il introduit une règle du jeu, un regard là aussi, qui fait que les choses se mettent à bouger. Et c'est quelqu'un de, dans sa démarche, profondément éthique, dans une grande sincérité, et quand l'art et l'éthique se retrouvent comme ça, il n'y a pas plus insolent que ça.
Le voici, Thierry Tionyang, Vinciane Lomonier est allé le rencontrer.
Si Macha Makeyev était un mouvement.
Une farandole. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'à un moment donné, les gens peuvent... dans ses spectacles, enfin même dans son travail, faire une ronde, défaire la ronde, se donner la main. Voilà, il y a quelque chose comme ça de la, ouais, d'une farandole.
Si Macha Makeyev était une partie du corps.
Les jambes, pour courir, sauter, faire volte-face, grimper, tomber.
Si Macha Makeyev était une pièce du répertoire.
Casse-noisette, parce que c'est un conte, parce que il y a des jouets, c'est la fête et c'est la nuit. Voilà. J'ai rencontré Macha dans le cadre du Festival d'Aix-en-Provence. Je travaillais à l'époque avec Patrice Chéreau et elle travaillait avec Jérôme Deschamps. Et on s'est comme ça apprivoisé, on s'est croisé. Et l'été dernier au Festival d'Avignon, on a pris l'un et l'autre la parole sur justement qu'est-ce que c'était le partage, qu'est-ce que c'était le public d'aujourd'hui, comment créer une empathie entre ce que nous on propose sur un plateau et la salle qui reçoit ce cadeau. Et Macha a envie que je revienne proposer un spectacle que j'ai fait au Festival d'Avignon avec des enfants. Les enfants primo-arrivants, là ce serait des enfants du voyage. Parler de qu'est-ce qui se passe quand un enfant tombe, qu'est-ce qui se passe quand un enfant court, quand un enfant est seul, quand un enfant est en bande. Et le spectacle que j'ai créé à Avignon, je crois, lui parle beaucoup. Moi, j'ai pas de texte initial, que souvent les metteurs en scène partent d'un texte et ensuite peut déployer un univers. Moi, je pars quelquefois d'un simple geste, d'un moindre geste, quelquefois quand il est chez l'enfant autiste ou chez une personne atteinte d'Alzheimer, il y a presque rien. Et dans ce presque rien, il faut raconter quelque chose. On le voit dans le documentaire « Une jeune fille de 90 ans » que Valeria Bruni-Tedeschi a réalisé à partir de mon travail, et avec justement des personnes très âgées qui pouvaient à peine bouger, et parce que je me mettais en mouvement moi, je pouvais les mettre à bouger eux, et que c'était quelquefois juste un doigt qui se lève. Pour moi, tout corps est un corps dansant, qu'il ait 5 ans ou 90 ans, et qu'il soit enfermé dans une prison ou dans sa pensée par la maladie. Je vois, moi, toujours un geste qui me parle de la danse.
On a fait des choses plus difficiles que...
Que ? On a fait des choses plus difficiles que hier.
Ouais.
Ça, c'est vrai. On a fait des équilibres sur un pied, tous les deux. Vous m'avez soutenu, vous m'avez soulevé.
Oh.
Je vous ai porté. Vous vous souvenez de ça?
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait peur?
Ça vous fait peur un peu.
Mais vous avez confiance?
Ah, j'ai confiance en vous de faire ça comme ça.
Je mélange très vite les générations parce que les enfants amènent tout de suite du jeu, un mouvement spontané, à courir, à marcher, à se rouler au sol, et entraînent souvent les adultes qui n'osent plus. Et les adultes amènent tout à coup aussi une concentration qui infuse chez l'enfant. Et du coup, il y a une synergie qui se met en place, qui fait qu'à un moment donné, les adultes cherchent en eux l'enfant qu'ils étaient pour pouvoir oser de l'invention, de la spontanéité. Et l'enfant qui se projette dans son imaginaire de grand. Il y a de l'humain dans chaque corps et dans cette transmission plus du tout de hiérarchie. Et ensuite, moi, je cueille tous ces gestes et j'essaie d'un moment donné qu'il y ait une écriture pour que ça devienne un spectacle. À un moment donné, je me suis senti dans de l'entre-soi. J'avais l'impression de danser pour des danseurs, pour ceux qu'on connaissait. À un moment donné, j'avais l'impression aussi que la danse ne m'aidait pas toujours. Moi qui suis un grand lecteur et un grand spectateur de cinéma, je crois que j'avais envie qu'on raconte des histoires. Et je trouvais que quelquefois la danse n'osait pas frontalement raconter des histoires, de jouer à être quelqu'un d'autre, de danser à être quelqu'un d'autre. Chose que le théâtre propose tout le temps. La danse, elle partait de principes aussi très, très abstraits. J'avais besoin de textes, j'avais besoin de mots. Puis mon travail, du coup, c'est ouvert. J'ai pu échanger avec des metteurs en scène, avec des plasticiens, des musiciens, mais aussi des amateurs pour ouvrir mon travail.
Si Masha Makeyev était un saut.
Un saut en longueur. D'un endroit à l'autre, de cour à jardin. J'ai l'impression que son travail est plus horizontal que vertical et que c'est quelqu'un qui va de l'avant en partant d'un point pour aller à un autre point. Quelquefois c'est le passé, quelquefois c'est son passé à elle, c'est de l'intime, quelquefois c'est l'histoire du monde, mais ça va toujours un peu en avant.
Si Masha Makeyev était une position statique?
Je sais pas, peut-être un poirier, la tête en bas, une espèce de trépied comme ça. On sait pas où est le haut, le bas. Souvent, les costumes chez Masha sont fabriqués. J'ai toujours l'impression d'un jeu d'enfant où on avait la tête d'un personnage, le ventre d'un personnage et les pieds d'un autre. On pouvait bouger comme ça. Les personnages chez Masha sont toujours comme ça, un peu la tête en bas, les pieds en l'air.
Si Masha Makeyev était quelques secondes de danse, qu'est-ce qu'on verrait?
Le début d'une valse, le moment où tout à coup les deux corps se prennent par la main, un bras prend la taille, l'autre tient les épaules, et qu'on est prêt tout à coup à balancer comme ça, à faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
La valse numéro 2 de Chostakovitch.
Quel bonheur, quel bonheur. C'est vrai que d'entendre Thierry, ça me touche particulièrement parce que il y a de la danse dans la fuite aussi. C'est presque incontournable. J'ai des acteurs très dansants et c'est Angela Prejlocage et Guillaume Sierre, son assistant, qui sont venus faire travailler les acteurs. C'est magnifique. Et voilà, je voudrais citer Geoffroy Rondeau qui est un acteur vraiment qui se déplace sur le plateau vraiment comme un danseur. Il a un sens de l'espace extraordinaire. Vincent Winterhalter aussi à sa façon. Et ce sont des acteurs, dans la façon dont ils arpentent le plateau, dessinent l'espace. Et j'ai vraiment une troupe magnifique, j'ai hâte de les retrouver.
Mais restez encore un petit peu avec
nous. Oui, un petit peu.
Masha Makeyev dans le Grand Atelier sur France Inter. Vous citez souvent vos fantômes, oui. Vous aimez bien ce mot, le mot fantôme. Vous dites Antoine Vitez, oui. Et vous parlez aussi d'un fantôme bienveillant qui est une actrice qui est... Oh ben vous allez reconnaître sa voix.
Pour moi, il y a eu une première rencontre, c'est à travers bêtement un interview de Jérôme et Masha qui parlait de leur manière de vouloir travailler justement avec les comédiens ou ce qu'ils avaient envie de raconter à travers les pièces. La manière dont ils en parlaient, je me suis tout de suite dit que c'était des gens que j'avais envie de rencontrer. Et je me rappelle que Jérôme et Masha trouvaient drôle la manière dont je marchais. En tout cas, c'était une espèce d'impro. Je trouvais que je ressemblais à une louve. Et je sais que c'est souvent revenu à travers les interviews. Une louve, oui, de la manière dont je marche, comme ça, un peu... Je me souviens, des grands pas, des grandes enjambées, comme ça, le dos voûté, et puis voilà. C'est un travail sur une corde raide où soi-disant, on ne verrait pas l'acteur. Mais ça reste malgré tout une démarche de comédien que de jouer comme ça. Et puis, c'est un travail, voilà, apparemment, de plusieurs années. Je m'explique embrouillé. Hein. De toute façon, c'est embrouillé, je trouve, le travail qu'on fait. C'est pas très bien avec... Si, on sait et on sait pas, en fait. Je trouve ça bien, mais effectivement, c'est une espèce de jeu sur une corde raide. Je trouve ça... J'aime bien, il y a un équilibre. À partir du moment où on en ferait trop pour aller vers quelque chose, ce serait de toute façon complètement à côté de la plaque et pas bien. Par contre, je suis très énervée si on pense que je ne suis pas actrice et que c'est pas voulu. J'aime bien dire qu'il y a une démarche aussi de ma part.
Lancer son cœur avec un bouquet de fleurs. La la la, c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique.
Et oui, vous avez reconnu Yolande Moreau, ça c'était C'est magnifique, c'est déjà 1994, Masha Makeyev.
Alors, mais quelle émotion!
Oui, hein, pourquoi vous parlez d'un fantôme que vous aimez convoquer quand vous êtes devant un plateau avec des acteurs, Yolande Moreau?
Parce que les acteurs que l'on a aimés et que l'on aime, je crois qu'ils sont toujours là en fait, même absents, ils sont présents et j'aime bien convoquer très souvent François ou Yolande, d'autres comme ça, et puis aussi des gens d'un autre temps, hein, bien avant, d'il y a 15 ans, 20 ans, qui ont quitté cet espace pour un autre. J'aime beaucoup parce que je pense qu'il y a là aussi une transmission un peu magique, et puis c'est très réjouissant. Yolande est quelqu'un qui a vraiment beaucoup compté, c'est une artiste incroyable, c'est une fleur japonaise, c'est-à-dire qu'elle est... Elle est comme sur la pointe des pieds quand elle répète, elle esquisse des choses. Et le public étant là, il y a quelque chose qui se développe, qui est extrêmement puissant, qui est très en place, qui est très exigeant. Et je n'ai jamais vu Yolande qui ne soit pas poétique. Et je l'ai vu faire pleurer, vraiment pleurer le public. Et rire, évidemment, mais surtout, elle transporte une émotion incroyable. Enfin, c'est fait partie des artistes que j'aime infiniment.
Elle avait une formule là, très jolie, je m'explique embrouillée.
Ah oui, oui, puis elle peut, par exemple, Yolande, c'est quelqu'un qui arrive à la répétition qui a perdu sa jupe. Voilà, elle cherche sa jupe et en fait sa jupe est remontée au-dessus de ses côtes flottantes. Ah, puis elle la retrouve et elle la, hop, et d'un geste admirable. Alors je lui ai fait beaucoup de jupes dans les spectacles.
J'ai demandé à l'aîné de vos enfants de venir avec vous dans votre grand atelier. C'est Juliette Deschamps. Bonjour.
Bonjour.
Aînée d'une famille de 4 enfants. Mm-hmm. C'est du boulot hein, d'être la fille aînée.
Alors, on peut parler tout de suite de ce malentendu, mais moi, j'ai jamais senti, compris ou su que j'étais leur enfant, en fait. J'ai vécu avec eux.
Jérôme oui. Deschamps, Macha Makeyev.
En fait, je vis toujours. Je vis loin d'eux, mais avec eux.
Pas comme s'ils étaient vos parents.
J'ai jamais compris cette relation-là quand on me disait tu es enfant, tu dois faire des choses d'enfant. Puis d'ailleurs, je pense pas qu'ils m'aient élevée. Ils m'ont élevée comme une petite personne. Et ils se sont toujours adressés à moi quelque part comme une petite personne et pas comme un enfant. Et je pense que ils étaient très jeunes. Et
vous aviez quel âge, Macha, quand vous avez eu Juliette?
23 ans.
23 ans.
Et j'ai l'impression que j'ai éveillé, on s'est élevés ensemble.
C'est vrai, j'étais pas finie.
Et qu'on a grandi ensemble, donc c'est une autre relation.
C'est beau cet aveu de Juliette Deschamps, Macha Makeyev.
Oui, c'est très émouvant, mais c'est mon enfant, ma sœur, Juliette. Hein. C'est vrai qu'elle m'a autant élevée que je l'ai élevée, parce que c'est une expérience extraordinaire que ce petit être de 2,5 kg qui débarque comme ça dans votre vie, qui vous est confié. Moi, j'ai toujours pensé que les enfants que l'on avait nous étaient confiés par l'humanité. C'est un petit morceau d'humanité comme ça, absolument étonnant, à peine né, avec une force incroyable, une personnalité incroyable. Et après, c'est vrai que à la maison, le théâtre et tout ce qui tourne autour du théâtre, la musique et la vie et la pratique de notre art, c'était la même chose. Enfin, je veux dire, c'était sur la même table qu'on travaillait et qu'on dînait. On a continué à jouer et je dois beaucoup à mes enfants, parce que ce principe de réalité a évité aussi qu'on aille dans des endroits terribles de son esprit. Ils sont une source poétique incroyable et je pense qu'on ne peut pas faire du théâtre si on ne redevient pas comme des enfants. Et après, là, puisque c'est Juliette qui est là, c'est une émotion aussi immense de voir l'artiste.
Ah oui, parce que Juliette Deschamps fait de la mise en scène.
Voilà, c'est mon enfant, oui, d'accord, c'est ma sœur aussi, c'est cet être avec qui j'ai longtemps vécu. Nous avons vécu ensemble, vraiment très proches. Mais après, tout d'un coup, c'est aussi une artiste Et ça, c'est incroyable, enfin, c'est formidable, c'est peut-être le plus grand bonheur qui soit, et en même temps, ça ne peut naître que d'un détachement. Et voilà, c'est difficile de parler de ça, mais c'est tellement précieux de voir les spectacles qu'elle fait, et là-dessus, on est de plein pied, il n'y a plus de parents et d'enfants, il y a un respect réciproque, une exigence réciproque. Et Juliette, quelqu'un d'extrêmement exigeant artistiquement. Et ça me plaît beaucoup.
Mais vous avez aussi la réputation d'être exigeante, Macha Makeyev.
C'est vrai qu'on se dit les choses et on aime les choses travaillées. Mais après, ce continent qu'elle est, sa singularité, c'est une source d'étonnement.
Vous faites des costumes pour ces spectacles?
Elle m'autorise à les faire. Oui, je vais quelquefois jusqu'à Perm, dans l'Oural, où il fait moins 28, pour habiller des acteurs que je ne connais pas, des acteurs d'une troupe russe. Mais c'est des moments où se disent des choses sans les mots qui sont peut-être les plus forts.
Parce que récemment, vous avez mis en scène un spectacle sur Sarah Bernhardt, oui. Juliette Deschamps, qui vous a amené en Russie.
Oui, en fait, c'est les Russes qui m'ont proposé, une troupe russe à Perm qui m'a proposé de travailler avec elle. Et depuis longtemps, moi, je lisais des choses sur ce personnage, on parlait des fantômes. Sarah Bernhardt en est une femme tellement libre, tellement incroyable, qui avait quand même tout pour que ça se passe mal. Un poumon, un rein, juive, fille de pute, enfin, tout ce qu'il ne faut pas.
L'une des plus grandes comédiennes du 19e, 20e siècle.
Oui, et puis j'ai commencé à m'intéresser à ce qui avait été dit, raconté, médit sur elle, parce qu'on a dit, puis on a beaucoup médit. Et de ça, j'ai inventé un Sarah Bernhardt fan club. Le phénomène du fan m'a toujours beaucoup intéressée. Ces gens qui rêveraient d'être ce qu'ils ne seront jamais. Et voilà, j'ai créé ce spectacle qui est au répertoire en ce moment en Russie. Il vient de jouer le 14 octobre et il jouera le 2 novembre.
Ça vous a ému, j'imagine, d'aller sur les traces de vos aïeux.
Oui, je pensais à mes ancêtres quand ils marchaient dans la neige pour fuir les rouges. Et tous les matins, quand je me plaignais de faire ce chemin pour aller au travail, dans beaucoup de neige, et par moins 30, je me disais que c'était quand même un vrai plaisir par rapport à ce qu'eux avaient vécu.
Vous avez aussi des aïeux, Macha Makeyev, qui sont des Italiens, oui. Du côté maternel, hein, émigrés italiens.
Oui.
J'ai l'impression que c'est peut-être plus les Russes qui sont en vous.
Il y a des périodes comme ça, oui, vraiment, là, c'est quelque chose
Juliette est d'accord, hein.
Oui, c'est vrai, c'est eux qui m'obsèdent, qui me hantent et qui m'habitent en ce moment, parce que la partie italienne était extrêmement joyeuse, positive. Évidemment qu'ils avaient connu l'exil aussi, mais ils en ont fait quelque chose de très chantant.
Il y a une chose qui me fascine chez les Deschamps-Makeïev, c'est le besoin de diriger un lieu. Ça y est, Juliette a son lieu, elle programme artistiquement le théâtre de Pau. Jérôme Deschamps a été plusieurs fois patron, notamment à l'Opéra Comique. Vous aussi, Macha Makeïev, avec lui à Nîmes et puis aujourd'hui à Marseille. Il y a un goût du pouvoir chez les Deschamps-Makeïev.
Non, je crois que c'est un goût de l'accueil. C'est un goût du chantier aussi, de l'entreprise, de savoir agencer les choses à la fois artistiques et humaines. Je crois plutôt que c'est un exercice de modestie. Ça nous éloigne d'un ego, ça nous éloigne. Entendre des artistes, par exemple Amandine Maillot, parler de son... et la voir arriver avec tous ses trésors.
La jeune plasticienne,
voilà,
oui.
Voilà, mais ça c'est une émotion. Et ça vous fait vous taire un peu, et taire vos souffrances, et taire vos désirs, et c'est très important.
Juliette Deschamps, vous pourriez dire, ben oui, moi j'aime diriger, et je le revendique.
C'est une autre forme de mise en scène, en fait. Mais dans la mise en scène, le paradoxe, c'est que c'est l'autre qui est dans la lumière, et pas soi. Quand on programme, c'est un peu ça aussi. On organise que les autres, les artistes, soient aimés et soient heureux. C'est étrange. On organise sa propre disparition.
Qu'est-ce que vous programmez, là, à Pau, dans les semaines, dans les mois qui viennent ?
Notamment, un très beau Monsieur de Pourceaugnac, mis en scène par Clément Hervieux-Léger, avec le très beau Gilles Privat dans le rôle-titre, et les musiciens de William Christie sur scène. Ça va être un grand plaisir. Et puis, comme il faut se mettre un peu en danger aussi, je présente une des performances vidéo que j'ai créées à partir du Songe d'une nuit d'été, de Mendelssohn, avec un tournage que j'ai fait en Angola. Et c'est une performance vidéo que je présenterai aussi au 104 en février.
Je vais vous demander de lancer le disque qui vient, le disque qui suit. Juliette Deschamps, c'est Moriarty.
Ah, avec grand plaisir. Un de mes derniers spectacles, c'était A Queen of Hearts. J'ai mis en scène Rosemary Stanley, qui est la chanteuse du groupe, qui est aussi une très belle actrice. On a fait un disque ensemble et on les adore.
Moriarty, Jimmy.
Won't you please come home? The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your Grandpa Jimmy is still gonna die. There's Buffalo Jim, Buffalo Jim, there's Jim Buffalo, not a didn't you know. Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette, and there's Buffalo Piss, and it's all kind of wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose, our roads lead to Rome with the Buffalo. Ignore the buffalo song.
used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. If you remember, you're a
Moriarty, Macha Makayev, après ces deux heures de grand atelier sur France Inter, quel est l'état présent de votre esprit?
L'état présent de mon esprit, c'est de dire qu'il y a dans la fiction quelque chose qui accueille tout le monde et que les théâtres sont des lieux de force poétique qui appartiennent à chacun et à tous, et que notre plus grand bonheur, c'est d'accueillir un public toujours plus large et plus divers, et que c'est pas du tout une posture. C'est une réalité, c'est-à-dire que il faut que le public pousse la porte des théâtres, des musées, que tout ça leur appartient, et que ces moments de suspension poétique dans les théâtres nous aident à vivre et nous rendent à notre humanité. Et je crois que la présence des artistes dans les villes est essentielle.
Qu'est-ce qu'il vous dirait, là, maintenant, Antoine Vitez, s'il était avec nous?
Je crois qu'on rirait, parce qu'on le croit pas, mais... notamment avec Jérôme, Antoine, et tous les trois en riaient beaucoup, et Antoine aimait beaucoup s'amuser, notamment des accents, notamment de plein de choses. Et je crois qu'il rirait et ça nous ferait du bien.
Antoine Vitez, qui, on le disait en début d'émission, a été l'un des premiers artistes à regarder Macha Makayev. Rentrez bien.